Au micro, Idrissa Seydoudia, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, bonjour. Au Sénégal, les manifestations contre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko ont fait jeudi 2 morts dans ce pays où les autorités ont suspendu 2 télévisions privées accusées d'attiser les violences et où des médias jugés proches du pouvoir par l'opposition ont été attaqués dans la soirée. Notre correspondant sur place, Edina Abagué, nous a fait parvenir des détails sur cette journée. Au Bénin, l'opposante Rekia Madougou, dont la candidature à la présidentielle du 11 avril a été rejetée, a été interpellé mercredi pour être entendu dans une affaire de terrorisme. Nous y reviendrons avec Michel Joseph et Eric Manirakidza. Au Tchad, 3 candidats d'opposition se sont retirés de la présidentielle du 11 avril au lendemain de la validation de leur candidat par la Cour suprême, dénonçant notamment la détérioration du climat sécuritaire. Notre correspondant à N'Djamena, André Kotmadjingar, fera le point en seconde partie de cette édition. En Libye voisine, une nouvelle étape a été franchie dans un pays en quête de stabilité. Le premier ministre par intérim Abdelhamid Beïdba a remis jeudi la composition de son gouvernement au Parlement élu dans l'espoir d'obtenir la confiance des députés lundi. Jacques Aristide nous en parlera. La haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a appelé jeudi à une enquête objective et indépendante dans la région éthiopienne du Tigré, après avoir corroboré de graves violations susceptibles de constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Après Amnesty International, Human Rights Watch a, de son côté, aujourd'hui accusé les soldats érythréens d'avoir perpétré un massacre en novembre à Aksum, au Tigré. Au moins 20 migrants sont morts et plusieurs autres portés disparus mercredi après que des passeurs ont jeté des dizaines de personnes à la mer au large de Djibouti, a annoncé jeudi l'OIM. Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 en Europe a augmenté de 9% la semaine dernière pour atteindre un peu plus d'1 million après 6 semaines de baisse prometteuse, a annoncé jeudi le directeur régional de l'OMS. Et le régulateur européen a commencé jeudi l'examen du vaccin Sputnik V contre le COVID-19 que la Russie se dit prête à fournir à 50 millions d'Européens. Pour la première fois en 5 mois, les États-Unis ont recensé jeudi moins de 40 000 cas de COVID-19 en 24 heures, selon l'Université Johns Hopkins. Autre signe encourageant dans le pays le plus touché par la pandémie en valeur absolue, les moyennes hebdomadaires des morts et des hospitalisations sont elles aussi nettement en baisse. Le pape François a quitté Rome aujourd'hui pour une visite historique en Irak sous très haute protection et malgré la pandémie dans un pays martyrisé où il attend réconforter l'une des plus anciennes communautés chrétiennes au monde, anéantie par conflits et persécutions. Nathalie Barge nous en parlera. Les Européens ont finalement renoncé à leur résolution contre l'Iran à l'Agence internationale de l'énergie atomique pour tenter de ramener Téhéran à la table de négociation avec les États-Unis. Une avancée saluée jeudi par la République islamique. Appel à un embargo mondial sur les livraisons d'armes, réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU, nouvelles sanctions américaines. La pression internationale s'intensifie sur la junte birmane, toujours sourde aux critiques face à l'escalade de sa répression contre les manifestants pro-démocratie, encore dans la rue ce vendredi. Au moins 38 personnes, d'après les Nations Unies, bilan plus lourd depuis le putsch du 1er février, ont été tuées mercredi par les forces de sécurité qui ont tiré à balles réelles sur des rassemblements de contestataires suscitant de nouvelles protestations internationales. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique.
La suite de nos informations. Deuxième jour de contestation au Sénégal après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Deux morts, des blessés graves et des magasins pillés ont rythmé la contestation hier. Des violences envers les médias ont clos une journée particulièrement mouvementée, nous a dit de Dakar notre correspondant Seydina Abagay. Abdourahman Dia reprend ici ses propos.
Le groupe de presse GFM, propriété du célèbre chanteur Youssou N'Dour, a été la première cible des manifestants. L'immeuble qui abrite la radio RFM et le quotidien L'Observateur a subi la furie des manifestants. Les vitres ont été caillassées, des voitures de journalistes incendiées devant le regard impuissant de leurs propriétaires. Après cette attaque, des jeunes cagoulés et munis de cocktails Molotov ont fait cap sur le quotidien national Le Soleil, qu'ils ont vandalisé avant d'essayer d'y mettre le feu. Il a fallu une farouche résistance de quelques employés présents sur place pour éviter le pire. Le média en ligne Dakar Actu a également subi une attaque et d'autres organes de presse ont été placés sous la surveillance des forces de l'ordre. Avant ces actions contre ces groupes de presse, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, CNRA, avait coupé le signal de Saint TV et du mythique groupe Walfadri, les accusant d'inciter à la violence, une décision qui a accentué les vives tensions de ces deuxièmes journées de manifestation marquées par la mort par balle d'un jeune de 20 ans dans le sud à Bignon et celle d'un autre de 16 ans dans la banlieue de Dakar. Des scènes de pillage ont aussi été notées dans plusieurs villes du pays. L'opposant Ousmane Sonko, dont l'arrestation est à l'origine de ces violentes manifestations, fera face au doyen des juges ce vendredi, ce qui fait craindre une nouvelle journée de violence à Dakar.
Au Bénin, l'opposante Rekia Madougou, dont la candidature à la présidentielle du 11 avril a été rejetée, a été interpellée pour être entendue dans une affaire de terrorisme. C'est ce qu'a annoncé jeudi le procureur d'un tribunal spécial à Porto Novo. Michel Joseph.
Selon le parquet, Madame Madougou et certains membres de sa formation politique ont, selon toute vraisemblance, formé le dessein de perturber le déroulement du prochain scrutin en perpétrant des actes de terreur de grande ampleur. Le procureur cité dans un communiqué a indiqué que Rekia Madougou est accusée d'avoir fait parvenir de l'argent à un ancien officier de l'armée afin qu'il se charge du meurtre d'une autorité influente d'une ville dans le nord du Bénin, puis de l'élimination d'une seconde autorité politique à l'occasion des obsèques de la première victime. Le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours, a-t-il ajouté. Selon le parquet, l'un des plus proches collaborateurs de la candidate, Georges Saka, a rencontré le 26 février le colonel Ibrahim Mama Touré afin de s'entendre sur cette mission criminelle. Les deux ont été interpellé par la police après la présumée remise de fonds. Quelques minutes avant son arrestation, la chef de file du parti Les Démocrates, proche de l'ancien président Boni Yayi, avait pris part à une réunion politique au cours de laquelle elle a dénoncé les pratiques du régime du président Patrice Talon.
En Libye, le premier ministre par intérim, Abdelhamid Dbeiba, a annoncé hier avoir remis la composition de son gouvernement au Parlement en vue d'un vote de confiance des députés lundi prochain. Jacques Aristide.
Les portefeuilles ministériels n'ont pas été rendus publics hier, mais le chef du gouvernement libyen indique avoir transmis ses propositions au Parlement conformément à la feuille de route de l'accord politique. Abdelhamid Dbeiba, un milliardaire originaire de Misrata dans l'Ouest, a été désigné premier ministre intérimaire il y a un mois par des délégués libyens de tous bords réunis à Genève sous l'égide de l'ONU en même temps qu'un conseil présidentiel de trois membres présidé par Mohamed Al-Manfi, originaire de l'Est. Selon la feuille de route, Dbeiba a jusqu'au 19 mars pour gagner la confiance d'un Parlement profondément divisé. Une réunion de la Chambre des représentants consacrée au vote de confiance est prévue lundi prochain à Sirte. Le futur exécutif est censé remplacer aussi bien le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj que les autorités rivales basées dans l'Est. Ce nouveau cabinet, si Dbeiba parvient à le former, aura pour tâche d'unifier ce pays miné par les divisions depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi et mener la transition jusqu'aux élections prévues le 24 décembre prochain.
Le pape François est arrivé en Irak aujourd'hui pour un programme chargé d'événements jusqu'à dimanche. Dans un message vidéo à la veille de ce voyage historique, hier, il a rendu hommage à ceux qui ont souffert d'années de violence, Nathalie Barge.
Disant avoir hâte de visiter l'ancien berceau de la civilisation, le pape a déclaré tendre la main à toutes les religions, tout en soulignant le lourd tribut payé par les communautés chrétiennes irakiennes. Au début des années 2000, l'Irak comptait 1 500 000 chrétiens, mais aujourd'hui il serait seulement 400 000. Le ministre des Affaires étrangères, Fouad Houssein, a salué la visite papale comme un geste exceptionnel de sensibilisation interreligieuse. Le pape François doit rencontrer à Najaf le grand ayatollah Ali Sistani, autorité religieuse de premier plan pour de nombreux chiites du monde. Le pape François va effectuer aussi une visite symbolique sur la terre natale d'Abraham, qui selon lui réunit en une seule famille chrétiens, juifs et musulmans.
La Minute Écho, Claire Morin-Gibourg.
Au Mali, le projet d'aménagement de Taoussa, un barrage hydroélectrique en construction sur le fleuve Niger, a besoin de 168 milliards de francs CFA pour être relancé. Alousseni Sanou, le ministre de l'économie et des finances, a souligné l'importance de ce projet en termes de développement pour le nord du Mali. Le barrage est situé à 130 km de Gao. Shelter Afrique, un organisme panafricain de financement pour la construction de logements, a annoncé le 3 mars avoir signé à Nairobi un protocole d'accord avec le gouvernement togolais pour co-développer 3000 logements à Lomé. L'accord doit aussi permettre la réalisation de logements abordables à grande échelle dans le pays grâce à des partenariats publics-privés. Le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, a prévenu hier jeudi que les États-Unis ne retrouveront sans doute pas le plein emploi en 2021, malgré l'optimisme suscité par la campagne de vaccination et le plan de relance de Joe Biden. La consommation devrait repartir et la situation de l'emploi s'améliorer. Les prix devraient eux aussi grimper, faisant même craindre un retour de l'inflation, pourtant absente du paysage américain depuis un quart de siècle.
Et maintenant, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Tunisiens et Gambiens se retrouvent ce soir pour le match de classement de la CAN des moins de 20 ans qui se joue en Mauritanie. Coup d'envoi 20h, temps universel demain. En finale, triple vainqueur de la compétition, le Ghana fera face à l'Ouganda, qui est à sa première participation à une phase finale de cette catégorie de la CAN. Ligue des champions féminines 2021 cherche à preneur. La Confédération africaine de football va lancer cette année cette compétition sur le continent. Les associations nationales sont invitées à soumettre leur dossier de candidature. Présentant les stades, 2 stades sont exigés et les terrains d'entraînement, 4 sites d'entraînement au moins. Les plans d'hébergement pouvant accueillir les 8 équipes et la garantie officielle du gouvernement. La date limite de réception des dossiers de candidature est fixée au 31 mars 2021. Le tournoi final aura lieu pendant la période d'octobre, novembre ou décembre de chaque année. Et pour cette toute première édition, 7 équipes se qualifieront pour le tournoi final à l'issue des éliminatoires organisés dans chaque union zonale, en plus du club champion du pays hôte qui est qualifié d'office. En Angleterre, Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keita, Joel Matip et Liverpool n'y arrivent plus. Les Reds sont tombés hier à domicile 1-0 devant Chelsea du Marocain Hakim Ziyech et du Sénégalais Edouard Mendy en infligeant à Liverpool sa 5e défaite consécutive en Anfield 1-0. Chelsea est remonté à la 4e place de la Premier League alors qu'Everton et Tottenham ont pris des points importants dans la course à la Ligue des Champions en match avancé de la 29e et de la 33e journée. Avec 47 points, Chelsea s'empare de la 4e place et du dernier ticket virtuel pour la Ligue des Champions avec 1 point d'avance sur Everton et 2 sur West Ham qui ont tous 2 un match en moins. Le régime fiscal dont ont bénéficié pendant 25 ans le FC Barcelone, le Real Madrid et 2 autres clubs de football espagnol constitue une aide illégale de l'État espagnol. C'est ce qu'a affirmé la justice européenne rejetant définitivement un recours du Barça. Elle juge que la Commission a eu raison de reprocher à l'Espagne l'absence de notification du régime fiscal particulier dont bénéficient les quatre clubs, le Barça, le Real, l'Athletic Bilbao et Osasuna. En 1990, en effet, une loi espagnole a obligé les clubs sportifs professionnels à se transformer en sociétés anonymes sportives, rappelle la Cour de justice. Mais quatre clubs ont préféré faire valoir une exception à la loi, leur permettant de continuer à opérer comme personne morale sans but lucratif afin de bénéficier d'un taux spécifique d'imposition de leurs revenus.
Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'opposante béninoise Rekia Madougou a donc été interpellée mercredi à Porto-Novo pour être entendue dans une affaire de terrorisme. Chef de file du parti Les Démocrates et proche de l'ancien président Boni Yayi, sa candidature à la présidentielle du 11 avril a été rejetée. Deux de ses collaborateurs ont été incarcérés lundi soir après avoir été inculpés pour association de malfaiteurs et terrorisme. Eric Manirakidza a joint à Cotonou la présidente de la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin, Fatoumatou Zosu Batoko.
À la plateforme électorale des organisations de la société civile du Bénin, nous ne pouvons pas dire maintenant si c'est une arrestation abusive ou pas. Nous continuons de chercher à comprendre exactement ce qui s'est passé. Et si c'est le cas, nous le dirons au gouvernement. Si c'était le cas et que c'est l'opposition ou les démocrates qui n'ont pas raison, nous ne leur dirons. Nous, on ne comprend pas encore, on continue de chercher à comprendre les raisons fondamentales de ce qui s'est passé. Nous avons les raisons du procureur à travers les réseaux sociaux. Nous continuons encore à travers nos relations de comprendre ce qui s'est passé et nous situerons tout le monde. Nous avons pour mandat de faire en sorte que nous traversions les périodes électorales de manière pacifique, que nous travaillons à faire en sorte que les élections soient transparentes et qu'elles soient libres. Notre organisation ou notre plateforme qui regroupe plus de 150 organisations à la base a des points focaux, a des réseaux d'information et nous sommes en train de colmater les informations pour comprendre ce qui s'est passé en réalité. Mais ce que nous pouvons vous dire, c'est que de part et d'autre, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, ils n'ont pas les mots appropriés pour apaiser ces élections-là. Et nous le leur avons dit dans notre déclaration d'il y a deux jours.
Revenons sur l'organisation de la présidentielle elle-même. Est-ce qu'au niveau des textes, comment vous appréciez toute la loi qui organise la présidentielle actuellement?
Oui, il y a des aspects de cette loi qu'il faut revoir, qu'il faut améliorer. Et en son temps, nous l'avons souligné. Même avant même que cette loi ne soit votée, la plateforme électorale et des organisations membres avaient déjà commencé à tirer sur la sonnette d'alarme. Et nous avions souligné des aspects qui pourraient être des aspects, des sources de conflits, des lois qui pourraient être conflictogènes. Alors, nous, à la société civile, nous n'avons pas un pouvoir dissuasif. Nous éveillons les consciences, nous suscitons les gens à comprendre, à nous écouter et à changer. La loi électorale telle qu'elle est en ce moment comporte des aspects qu'il faut forcément améliorer.
Au niveau des candidatures retenues ou rejetées, est-ce que pour vous, c'est la loi qui a été dite?
Je crois que la Sénat, qui est responsabilisée par rapport à ce travail, a fait ce qu'elle doit faire. La Sénat est une institution avec laquelle la plateforme travaille beaucoup. Tout le problème se trouve au niveau des lois, au niveau des parlements. Et tout cela est parti du fait que le parrainage, tel qu'il a été conçu, dès le départ, il y a déjà eu cette fausse note-là. et qui a conduit à tout ce que nous observons aujourd'hui.
Fatoumatou Zosou Batoko, présidente de la plateforme électorale des organisations de la société civile au Bénin.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Tchad, la Cour suprême a validé 10 candidatures sur 17 pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Le processus a été émaillé de violences contre un candidat de l'opposition, Yaya Dilo, à son domicile, où au moins 2 personnes ont été tuées. Cela a amené 3 candidats de l'opposition à se retirer de la course, mais curieusement, leur nom figure toujours sur la liste des candidats éligibles. André Kotmadjingar, notre correspondant au Tchad.
Maître Tchoufil Bongourou de l'Alliance Victoire, Salé Kebzabo de l'UNDR et Garledi Yurongar du Phare Parti Fédération qui ont annoncé leur retrait de la compétition pour dénoncer l'injustice sociale et l'insécurité des candidats de l'opposition, avant même la clôture de l'audience, ont vu leur dossier retenu par la Cour suprême. Réaction de Maître Tchoufil Bongourou.
On s'attendait à ce qu'on nous décline la liste le 8, parce que dans la loi, il faut une semaine plus tard. Mais qu'est-ce qui a justifié la précipitation pour qu'on puisse rendre publique la liste des candidats, alors que avant que cette audience même ne soit clôturée, nous on s'est attaché le service d'un huissier pour qu'il y ait date certaine et l'heure dont on a déposé notre retrait autour de midi 13h. Comment se fait-il qu'à 16h on nous dit qu'on est éligible pour être candidat? Il faut être sérieux. Nous on va revendiquer nos 10 000.
Maître Tchoufil Bongourou précise par ailleurs que l'affaire Yaya Dilo est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisqu'il y avait d'autres revendications comme la nomination d'un président de la CENI véritablement indépendant et la garantie de tous les candidats de battre campagne en toute sécurité dans le Tchad profond. Brice Mbaye-Mogadambaye, candidat de l'Alliance républicaine pour le changement démocratique, estime que la décision de se retirer de la course prise par certains de ses compagnons semble prématurée.
La question a été posée et nous avions dit qu'il fallait attendre que la Cour suprême rende la liste publique. À partir de ce moment-là, nous allons nous concerter et prendre une décision collective. Malheureusement, la concertation n'est pas terminée quand les uns et les autres ont annoncé le retrait de leur candidature. Est-ce qu'en jouant aux défaitistes, on pourra arriver à vaincre cette dictature?
3 candidatures qui gênent le pouvoir ont été invalidées. Il s'agit du docteur Succès Masra de Yaya Dilo et de l'ex-chef de guerre Babalade. Docteur Succès Masra se tourne vers le peuple qui, selon lui, aura le dernier mot.
Ce qui reste au peuple, c'est de rendre ces élections impossibles et sinon de rendre le pays ingouvernable jusqu'à ce que M. Déby revienne à la raison, parce qu'il a tué sa sœur qui est la maman de Yaya Dilo. Il a tué son petit-fils qui est le fils de Yaya Dilo. Donc, qui peut défendre un régime pareil s'il n'a pas vendu son âme? La seule chose qui va permettre au Tchad de faire un décollage, c'est le départ de M. Déby. C'est pour ça que nous avons demandé sa démission immédiate, parce qu'il a perdu en dignité et en crédibilité.
Pour l'expert en question électorale Doumla Ibra Laurent, le retrait à la dernière minute des candidats dans ce processus risque de jouer sur la crédibilité et la légitimité de celui qui sera élu.
Les candidats qui se sont retirés, c'est quand même des grosses pointures. Et donc, il faut absolument arriver à décrisper un peu la situation pour que le processus soit un processus inclusif.
Le parti au pouvoir dit se tenir droit sur ce bout pour aller à cette élection et qualifie ceux qui ont gelé leur participation d'être en mal de popularité. André Kodumadingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Près de 75% de la population mondiale vit dans des pays où la liberté est en déclin, y compris aux États-Unis, selon le rapport annuel de Freedom House, un groupe de réflexion basé à Washington. La correspondante de la Voix de l'Amérique à la Maison-Blanche, Patsy Vidakushwara, revient sur le rapport. Récit de Nathalie Barge.
Des manifestations d'agriculteurs indiens aux affrontements entre les forces de l'ordre américaines et les partisans de Black Lives Matter, l'Inde et les États-Unis font partie d'une tendance mondiale qui montre un déclin des politiques et des institutions démocratiques, selon Freedom House. Amy Slipovitz, responsable de la recherche du rapport.
La pandémie a vraiment exacerbé ce déclin démographique à long terme. De nombreux dirigeants autocrates l'ont utilisé comme une opportunité de consolider le pouvoir.
le groupe de réflexion évalue l'accès des citoyens aux droits politiques et aux libertés civiles dans 210 pays et territoires. En 2020, 45 pays supplémentaires ont eu des scores en baisse, une tendance qui se poursuit depuis 15 ans. Les États-Unis ont chuté de 3 points depuis l'année dernière, une forte baisse pour une démocratie établie. Amy Slipovitz à nouveau.
Cela s'est notamment manifesté à travers le licenciement d'inspecteurs généraux et la salle d'autres institutions censées tenir les dirigeants du gouvernement pour responsables. Également à cause de la pandémie, il y a eu mépris de la transparence. Le gouvernement fédéral et certains États ont diffusé des informations fausses et trompeuses. Ils ont obscurci les données relatives à la pandémie et ont provoqué la confusion et politisé la réponse.
Ce déclin démocratique n'est pas nouveau. Les États-Unis ont perdu 11 points au cours de la dernière décennie. Moins de 20% de la population mondiale vit désormais dans un pays libre, le taux le plus bas depuis 1995 selon Freedom House. L'Inde a enregistré la plus forte baisse depuis l'année dernière. Son statut est passé de libre à partiellement libre en raison de politiques nationalistes hindouistes et de la violence contre les minorités.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
D'autre part, les législateurs républicains de plusieurs États font pression pour faire passer des projets de loi considérés comme pouvant restreindre le vote ici aux États-Unis après la participation record aux élections de 2020 dont l'issue a permis aux démocrates de prendre la Maison-Blanche et le contrôle du Congrès américain. Kent Farabo de la VOA rapporte que l'Iowa est l'un de ces États à avoir examiné un texte qui pourrait limiter l'accès au vote. Et récit de Jacques Aristide.
Plus de 2 millions d'électeurs de l'Iowa se sont inscrits pour voter aux élections générales de 2020, un record dans un État comptant un peu plus de 3,1 millions d'habitants. Sur 1,7 million de bulletins de vote déposés dans l'État en novembre dernier, plus d'un million ont été soumis par la poste, également un record, car de nombreux électeurs ont évité les urnes pendant la pandémie. Le républicain Donald Trump a remporté l'Iowa, mais a perdu l'élection présidentielle face au démocrate Joe Biden. Désormais, les républicains qui contrôlent la législature de l'État de l'Iowa ont adopté un projet de loi limitant le vote anticipé en personne et raccourcissant le temps alloué au vote par correspondance, entre autres dispositions. Bobby Kaufman est un élu républicain de l'Iowa.
Mais le travail du comité du gouvernement de l'État est d'assurer l'intégrité des élections. Vous regardez ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait, et vous apportez des améliorations, et c'est exactement ce que nous faisons ici aujourd'hui.
Pour les républicains, il s'agit d'un moyen de lutte contre toute fraude électorale éventuelle, mais les démocrates, eux, le voient comme une suppression du vote. Eric Guerdé, un élu démocrate de l'Iowa.
Nous voulons rendre le droit de vote aussi facile que possible pour chaque électeur de l'Iowa. J'ai de nombreux électeurs qui exercent plusieurs emplois, qui sont parents et qui ont besoin de flexibilité pour voter lorsqu'ils en ont le temps.
Les démocrates n'ont pas pu éliminer ce qu'ils considéraient comme des restrictions au vote. Le projet de loi a été adopté à la Chambre des représentants et au Sénat de l'Iowa. À Washington, des démocrates tirent la sonnette d'alarme. John Ossoff, sénateur démocrate nouvellement élu en Géorgie, a indiqué qu'un projet de loi dans son État découragerait de manière disproportionnée le vote des minorités. La Géorgie et l'Iowa font partie des dizaines d'États où les républicains cherchent à réécrire les lois électorales. Les réformes du vote dans l'Iowa attendent la signature du gouverneur républicain de cet État. D'après Jessica Huseman, d'autres États américains vont emboîter le pas avant les élections de mi-mandat de 2022.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.